Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
7h42, plus de 1400 artistes et intellectuels ont apporté samedi dans une tribune leur soutien au mouvement des Gilets jaunes. Cet appel qui fustige la répression policière intervient plus de 6 mois après le début de la contestation sociale. Les signataires qui espèrent une convergence des luttes sociales et environnementale suggère aux artistes d'utiliser la création artistique pour soutenir, je cite, « ceux qui luttent dans la rue et sur les ronds-points depuis plusieurs mois ». Alors pour évoquer cette question de la culture face aux Gilets jaunes, nous avons invité Daniel Salnave. Bonjour Daniel Salnave, vous êtes écrivaine, vous êtes membre de l'Académie française et vous publiez un petit livre qui pose question « Jojo, le gilet jaune ». C'est publié aux éditions Gallimard dans une nouvelle collection, la collection Tract. Vous n'avez pas signé cette pétition ?
Non, pas que je me désolidarise du tout de l'esprit dans lequel elle a été écrite et présentée, mais parce que mon angle de vue est un peu différent. Oui, j'aborde des questions comparables, mais je les aborde indirectement. Ma manière de venir en soutien, en quelque sorte, à ce que représentent les Gilets jaunes, c'est de pointer la défiance, la méfiance, voire l'hostilité assez répandue que ce mouvement a suscité depuis le début, y compris dans les rangs de la gauche, y compris de la gauche culturelle, en gros.
Alors, on se dit qu'une écrivaine comme vous, membre a fortiori de l'Académie française, est assez éloignée des Gilets jaunes, Daniel Salnave.
On est éloigné des Gilets jaunes si on le veut bien. C'est une affaire d'histoire personnelle, c'est lié à votre histoire, à vos choix. Moi, étant donné les choix qui ont été les miens durant toute ma vie, avec des différences, forcément, puisqu'on évolue, on change, on s'oppose, on se constitue, je me suis toujours senti rattaché à ceux dont je viens. Vous me direz, c'est pas un argument, parce que on est là où on peut, hein, c'est un arbitraire. Bah, si on est dans ce que j'appelle le peuple, bien qu'il faille vraiment être prudent sur ce mot, mais disons, de arrière-grands-parents qui étaient journaliers agricoles ou petits employés, et qui petit à petit sont devenus fonctionnaires, etc. Cette espèce d'évolution-là, qui a fait partie de l'histoire de la République, je l'ai connue, j'en ai bénéficié, et je vois pas pourquoi j'oublierais. Au contraire, ceux qui étaient mes arrière-grands-parents et qui étaient des gilets jaunes de l'époque.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous retrouvez vos ancêtres sur les ronds-points ?
Mais bien sûr, mais je les retrouve tout le temps. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont là. Je ne me sens pas coupable envers eux. Je me dis que j'ai eu de la chance par rapport aux conditions de vie qu'ils ont eues. Mais je crois qu'ils la souhaitaient pour nous tous, ces arrière-grands-parents et au-delà. Ils souhaitaient sortir de la précarité, que leurs enfants en sortent. La République a représenté ça à la fin du 19e. Les enfants devenaient cheminots ou instituteurs. C'était extraordinaire parce qu'on sortait de la précarité. Et ensuite, c'est ce qu'on appelait l'ascenseur social ou la méritocratie républicaine. Il y avait une évolution, les petits-enfants devenaient professeurs, médecins, etc. Mais si c'est pour se comporter au bout, comme se comportent ceux qui se sont contentés de naître, comme disait Figaro, alors là, je dis non. Non.
Mais alors, justement, vous vous posez la question de savoir qui sont ces gilets jaunes, et vous dites que ce sont des gens que les habitants des grandes villes ne croisent jamais, alors sauf pendant les manifestations. Daniel Salnave, vous en avez croisé, vous dites que vous klaxonnez à chaque fois que vous êtes sur un rond-point.
Oui, c'est un peu simpliste ce que je dis, parce qu'il est vrai qu'il y a aussi des gilets jaunes en ville, dans les villes, tout dépend des quartiers, l'ouest et l'est de Paris, sa banlieue proche abrite aussi, bien l'est de Paris, sa banlieue proche, abrite des gilets jaunes. Les gilets jaunes, ce sont ceux, je ne dirais pas qu'on ne voit pas, mais au fond, on a décidé de ne pas voir, on a considéré que, au fond, c'était comme ça, il y a une espèce de consentement au nouvel ordre mondial qui date de 20, 30 ou 40 ans, à ce nouvel ordre mondial qui fait que certains sont en bas et d'autres sont en haut. Certains sont les premiers de cordée, puis les autres sont derrière. Si j'ai dit Jojo le gilet jaune, c'est à cause de la phrase du président qui a dit aussi, dans une gare on croise ceux qui ont réussi, ceux qui ne sont rien. Comment peut-on dire ceux qui ne sont rien ? Donc, il y a des ronds-points, je suis souvent en dehors de Paris, et il y a des ronds-points, il y a un rond-point qui est pas très loin de chez moi, où je suis assez souvent, je m'arrête, je discute avec eux, et quand je discute
alors,
pas,
qu'est-ce qu'ils vous disent,
je
donne
un coup de klaxon. Écoute, la première chose qu'ils me disent, c'est gentil de venir nous voir, comme si c'était, je viens pas en visite, mais quand même, c'est vrai. Et d'autre part, je parlais avec des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes sur les ronds-points, j'ai remarqué. Peut-être pas une majorité, mais une forte présence des femmes. Et l'une, deux d'entre elles m'ont dit, ce que j'ai lu d'ailleurs ailleurs, ce qui prouve que c'est assez général, on habite pas loin l'une de l'autre, mais on s'était jamais autant parlé. Et ça, je trouve ça énorme, on s'est parlé. Énorme.
L'accusation d'homophobie, de racisme, Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'évoquez, bien entendu, dans Jojo le Gilet jaune.
Bien sûr, mais je vois pas pourquoi je ferais l'impasse dessus. Il y a eu ce qu'on appelle les sorties de route. Il y a eu des propos intolérables qu'il faut absolument condamner. Quant à savoir s'il représentait les Gilets jaunes, je pense pas. S'il ne représentait pas, au contraire, une minorité, qu'il faut évidemment résolument combattre, dont il faut se séparer, on a un peu tendance aussi à le monter en épingle pour décrédibiliser ce mouvement. Parce que ce mouvement dérange.
Mais alors, justement,
il
dérange qui? Il dérange quoi?
Il dérange une sorte de, comme je l'ai dit, une sorte de vérité de consensuelle. Il dérange l'idée que un certain nombre de gens qui n'ont pas l'habitude ni de s'inscrire dans des syndicats, ni de manifester au 1er mai, ni de, etc., tout d'un coup, ont trouvé le moyen de sortir. On me dit, ils sont multiples, mais bien sûr, ce sont des mouvements individuels qui pourtant ont fait des moments collectifs.
C'est un mouvement populiste, et justement, alors, oui. je dis ça parce que vous donnez une définition du populisme qui vient de Guéremec, l'historien intellectuel.
Eh oui, parce
polonais.
Que je...
Qu'est-ce qui est, rappelez-nous ce qu'il disait, Daniel Salmanab.
Eh oui, parce que le populisme est une accusation grave. Si les Gilets jaunes sont des populistes, on n'a pas envie de les soutenir. Les populistes, ce sont pas forcément les Gilets jaunes, ce sont ceux qui profitent de l'absence des Gilets jaunes et de tous ceux qu'ils représentent sur la scène publique pour faire monter des formes politiques que moi je réprouve absolument. Et c'est le grand historien polonais Bronisław Geremek, qui avait étudié les pauvres au Moyen-Âge, les marginaux, qui disait « le populisme prospère sur l'absence du peuple dans la sphère publique et dans la vie publique ». C'est une phrase très profonde.
Et aujourd'hui, il y a selon vous un problème dans la représentation. Alors, vous êtes dur justement avec ceux qui participent à cette représentation et notamment les journalistes, ce qui est un peu paradoxal parce que oui. Y compris dans la pétition des milieux culturels et dans cette pétition, il est question des journalistes et pas pour en dire du bien. Qu'est-ce que vous leur reprochez aux journalistes, Daniel Salmanab?
Je suis, vous savez, le genre du pamphlet ou du libelle, parce que c'est un petit libelle, ne porte pas à la nuance. On est parfois, on manque un peu de nuance inévitablement. Et je ne veux pas du tout procéder au mot que je n'aime pas, au bashing des médias, pas du tout. Mais j'ai voulu pointer simplement quelque chose, c'est une image qui m'avait frappée tout à fait au début du mouvement des Gilets jaunes. Lorsque des Gilets jaunes étaient invités très souvent sur des plateaux de télévision, par exemple, ou à des radios, mais filmés en même temps. Donc, très souvent. Ce qui me frappait beaucoup, c'était le contraste. Même vu objectivement, pour quelqu'un qui aurait débarqué d'une autre planète, il y avait les Gilets jaunes qui étaient là, avec leur façon d'être, leur façon de parler, un peu gênés, mais pas tant que ça, parce qu'ils étaient contents de pouvoir se faire entendre. Et en face, il y avait ou des journalistes ou des invités qui ne savaient pas trop comment se comporter par rapport à eux. La plupart des, vous voyez, je vais droit de sang, la plupart des journalistes se sont, si j'ose dire, très bien comportés. Il y a quand même eu des sorties de route de journalistes intolérables. Dire que ce sont des aigris qui se grattent leur ressentiment comme on se gratte des puces, je trouve ça intolérable. Ou bien parler de vermine à propos de mais comment peut-on dire d'une catégorie de population. Je ne donne pas de nom, parce qu'en plus je pourrais me tromper, parce que je peux croiser tous ces exemples, je les ai mis ensemble, mais c'est vraiment pas bien, enfin c'est même plus que pas bien.
Alors, donc, il y a effectivement cette critique-là, mais alors, toujours pour essayer de voir si la peinture qui a été faite des Gilets jaunes, puisque vous évoquez leur représentation, Daniel Salmanab, on voit par exemple que les Gilets jaunes qui se sont engagés en politique, parce qu'il y a maintenant 3 listes Gilets jaunes, sont engagés à droite, je veux dire très très à droite.
Certainement, c'est inévitable. Je crois que quand même, on ne peut pas demander à un mouvement qui n'était pas du tout prévisible. C'est Jacques Rancière qui l'a très bien dit. Les raisons qui font qu'il est apparu, le philosophe Jacques Rancière a dit, les raisons pour lesquelles ils sont apparus seraient été les mêmes raisons qui auraient fait qu'ils ne seraient pas apparus. Il y a quelque chose qui surprend tout le monde. Comme en mai 68, Orvian Sompontet avait fait ses éditoriales, La France s'ennuie. 3 mois plus tard, il y avait des barricades au Quartier Latin. Donc c'était pas prévisible. Et en même temps, ça l'était. Du coup, on ne peut pas reprocher à des gens qui apparaissent sur une scène où ils n'ont jamais été, en effet, de ne pas s'organiser. Peut-être qu'ils ne veulent pas dans un premier temps, et c'est très légitime. Et ensuite, il faut bien voir que l'extrême droite, qui est aux aguets, en profite et trouvera toujours parmi les Gilets jaunes des gens pour se reconnaître dans l'extrême droite. C'est inévitable.
Et alors, quels sont les points communs avec mai 68? Si on essaye de faire un parallèle entre les deux périodes, Daniel Salmanab.
Ça vaut la peine de faire. Il faut profiter des personnes d'âge qui vous rendent visite pour qu'elles puissent vous parler de votre expérience de 68. Mais je l'ai fait un peu en disant ces femmes qui disent on habitait côte à côte, mais on s'était pas beaucoup parlé. Moi, ce qui m'a le beaucoup frappé, dès le début en 68, c'est qu'on se parlait. C'était un mois de mai moins pluvieux que celui-ci. Le soir, il faisait bon, on marchait sur les boulevards, etc. On croisait des inconnus.
Attendez, ça va peut-être s'améliorer.
Et on parlait interminablement. On parlait avec des gens qu'on connaissait pas, qu'on reverrait pas. C'est énorme, cette libération de la parole. Elle dit beaucoup de choses. Elle est pas suffisante. Mais on est au début de quelque chose. Moi, c'est en cela que le mouvement des Gilets jaunes m'intéresse. Mais c'est un début.
On se parlait parce que, à l'époque, les étudiants étaient les premiers dans la rue en mai 68, oui. Et ensuite ils ont été rejoints. Aujourd'hui, la configuration est différente.
C'est certain, mais ceux à qui on parlait dans la rue, c'était pas forcément des étudiants, c'était tout le monde dans la rue. On marchait, il n'y a pas de métro, on marchait, on parlait. Bien. En effet, ce qui est différent, c'est que ce sont les étudiants, et autour des étudiants, ensuite, les grands syndicats se sont décidés à... Bon, il n'est pas impossible que le désir de ce qu'on appelle la convergence des luttes, mot qui fait un peu un cliché, mais qui a du sens tout de même, soit tentée, y compris par les grands syndicats. Est-ce qu'elle réussira? Ce n'est pas sûr. Ce qui me frappe chez les Gilets jaunes, et je ne le reproche pas, c'est une défiance. Ils ont une défiance de beaucoup. Une défiance, pas forcément des institutions. On dit défi des institutions. Non, puisqu'ils en réclament immédiatement, même au plus haut. Mais ils ont une défiance de ceux qui sont là actuellement, que ce soit les hommes politiques, les représentants des syndicats, c'est certain. Leur défiance est grande.
Et alors, vous qui,
elle
êtes,
se comprend.
Vous qui êtes écrivaine, pourquoi elle se comprend?
Elle se comprend parce que j'ai pas le sentiment qu'ils aient été véritablement entendus dans ce qu'ils veulent et dans ce qu'ils sont. C'est surtout ça que je voulais dire. Il y a dans le mouvement des Gilets jaunes une revendication, dit on existe, regardez-nous, d'où le gilet pour être vu dans la circulation, d'où le rond-point autour du quoi tout tourne, mais nous on est au centre pour l'instant, ils ont voulu être au centre. Le sentiment de ce qu'ils sont, leur point de vue sur le monde, leur façon d'être, qui est très différente selon qu'on est petit patron ou vigile dans un supermarché ou aide-soignante. C'est tout de même, on existe, on a un point de vue, on a un point de vue sur le monde, écoutez-le. Et alors, ça énorme comme demande.
Justement, Daniel Salnav, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'Emmanuel Macron dise face pour justement que ceci ait satisfaction? Est-ce que c'était possible? Dites-nous,
mais
votre point de vue.
Ce qui me frappe bien, moi, c'est je pense que les regards se focalisent à juste titre sur le président actuellement en charge. Mais il est la suite d'un certain nombre d'hommes politiques qui ont, en gros, pratiqué cette même politique dans laquelle, en effet, si on regarde les propositions au moment de, il y a un an, il y a deux ans, au moment de son élection, si on regarde les diverses propositions qu'il a faites, on est toujours dans la même logique. Une logique est, nous, on va réformer, on va faire en sorte que ce grand mouvement de transformation va permettre aux premiers de cordée de tirer ceux qui viennent derrière. Or, ce que veulent les Gilets jaunes, c'est pas être tirés par les premiers de cordée. Ils veulent pas forcément être les premiers de cordée, mais ils veulent que ce rapport vertical d'en haut vers le bas, les décisions viennent d'en haut et ensuite, petit à petit, quelque chose remonte. Je crois que c'est cette verticalité-là pour laquelle ils sont véritablement contre laquelle ils sont en colère.
Daniel Salnav, il y a eu beaucoup de revendications sur les ronds-points dans les manifestations. Peu sur la culture, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah ben, il y en a très peu sur la culture, sur l'école, il y en a très peu. Alors on peut la voir de deux façons. Autour de moi, beaucoup de gens m'ont dit, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal, etc. Moi, ce qui me frappe, c'est s'il y a peu de revendications concernant l'éducation, l'instruction, l'école, la culture, ça veut dire qu'il y a un découragement d'un ensemble de populations dont les Gilets jaunes sont plus ou moins l'émanation à l'égard de l'école, à l'égard de l'instruction, à l'égard des diplômes et à l'égard aussi de la culture. Comment voulez-vous qu'il y ait des demandes à l'égard de la culture alors que la culture se soucie assez peu de ceux qui sont les plus nombreux parmi les Gilets jaunes?
Alors justement, quelle différence entre cette génération de Gilets jaunes et la génération de vos grands-parents, puisque vous dites un profond sentiment de connivence, de participation sociale, politique vis-à-vis des Gilets jaunes, puisqu'ils vous rappellent le
oui.
petit peuple de journaliers agricoles, je vous cite,
oui.
Daniel Salnav, dont vous venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle différence?
Il s'est passé, c'était 1880 en gros, le début de la République en France, de la Troisième République. Bon, il est clair que tout quelque chose s'est mis en place qui a donné une grande confiance, en particulier dans l'école, aux classes dominées, pour parler dans un vocabulaire un peu simpliste. Elles ont mis une grande confiance dans l'école. Elles ont compris que grâce à l'école, la demande d'instruction, qui donc devait permettre d'établir une meilleure situation pour ses enfants, éventuellement pour ses petits-enfants, cette demande d'instruction, elle a eu un écho incroyable dans le peuple. Il faut voir ce qu'a représenté l'école publique en particulier. L'école publique et la République, si j'ose dire, ça rime, c'est la même chose. Les chemins de fer, l'école publique, la République. Tout cela a porté un peuple, mais à travers ensuite une histoire qui a été tantôt extrêmement violente et aussi extrêmement décevante. Depuis 30 ans, l'ascenseur social ne fonctionne plus et l'école ne remplit plus cette fonction qui était la sienne, non pas de réduire les inégalités, elle n'est pas capable de le faire, mais au moins de produire un milieu qui permettrait cette ascension sociale, cette méritocratie républicaine. On l'a critiquée beaucoup. Et elle avait des défauts. L'élitisme républicain avait des défauts. On l'a critiquée, y compris à gauche. On l'a critiquée imprudemment. On a fini par tellement critiquer que maintenant on considère qu'au fond, c'était une imposture. Or, ce n'est pas vrai. L'élitisme républicain n'était pas une imposture. Il avait ses défauts, ses limites. Et quand on parle de supprimer l'ENA, ça me fait rire, parce que c'est comme si on disait je vais casser le baromètre pour faire du beau temps. On va pas supprimer l'ENA, mais comme dit Jean-Louis Debré, faire en sorte que l'école permettent aux enfants des milieux modestes, j'aime pas le mot, des milieux populaires, ouvriers, d'accéder. Or, aujourd'hui, on a une proportion bien plus faible d'enfants issus des milieux populaires, ouvriers, dans les grandes écoles qu'en 60 ou 70. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'où la défiance des Gilets jaunes qui ne demandent plus rien à l'école.
Enfin, mais plus Daniel Chalnave, et ici on reçoit souvent des gens qui appartiennent au milieu culturel, directeurs de théâtre, écrivains, et eux ont fait beaucoup de choses, alors non pas spécifiquement pour les Gilets jaunes, mais l'accueil des publics à des prix qui plus bas qu'auparavant, bref, tout ça s'est fait.
Mais oui, mais c'est l'offre qui est bonne, c'est la demande qui ne l'est pas. Je parle en termes d'économie néolibérale, mais en termes de culture, c'est pas vraiment approprié. Et pourtant, l'offre est excellente en France, on peut le dire. L'offre en direction.
Les bibliothèques.
Mais malheureusement, la demande, ça se fabrique, la demande. C'est sur la demande qu'il faut travailler. Et l'école, entre autres, doit y jouer un grand rôle, mais pas seulement. Et c'est pourquoi j'ai une grande confiance dans les petites troupes de théâtre, les petits théâtres, les associations qui font un énorme travail pour la lecture, pour le faire du théâtre à des groupes de jeunes, comme ce groupe de jeunes majorettes qui fait du théâtre quelque part dans une ville du nord de la France. C'est formidable. On ne le sait pas toujours, il faut en faire l'écho. Il faut s'en faire l'écho.
Daniel Chalnave, Jojo, le gilet jaune, c'est l'ouvrage que vous publiez chez Gallimard dans la collection Tract, une nouvelle collection. On va continuer d'évoquer à la fois votre regard, un regard culturel sur les gilets jaunes, et puis dans quelques instants, vous serez rejoint par Hervé Lebras, qui, lui, nous donnera le point de vue du démographe. En attendant, il est 8h sur France Culture, et je vous souhaite un très bon réveil.